On continue notre semaine, présence midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. On va faire la part belle au département du Gers et précisément au diocèse d'Auch. Le diocèse d'Auch était en pèlerinage le week-end dernier, dimanche. Nous avons fait vivre pour la partie sud du Gers la messe, donc en direct depuis l'église Sainte-Bernadette. Mais je vous propose d'écouter les meilleurs moments avec le mot de Monseigneur Lacombe au départ de la messe, son homélie et puis son mot de clôture. On attendra donc cela dans quelques instants. Puis on restera dans le Gers puisque Pauline Cazier a suivi dimanche dernier aussi toute la journée avec la Croix-Rouge. Elle a été faire une maraude avec eux et elle sera avec Béatrice et Jérôme. Tous les deux nous parlerons donc de la Croix-Rouge qui est là aussi pendant l'été et pendant la canicule. Vous verrez qu'il y a tout un plan qui est mis en place avec la préfecture du Gers. Voilà le reportage. Et puis, je ne sais pas si vous aimez tout ce qui est policier, mais dans un jour, un livre, un auteur, on va découvrir la deuxième partie consacrée à une belle association qui se trouve à Pau et qui s'appelle le Club Sherlock Holmes. On verra dans la littérature ce qu'a représenté Sherlock Holmes. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver les moments forts du pèlerinage du diocèse d'Auch à Lourdes.
Radio Présence à Aix-les-Thermes 92.7.
Le mercredi sur Radio Présence, c'est le jour consacré au diocèse d'Auch. Alors à cette occasion, nous revenons aujourd'hui sur la grande célébration vécue dimanche dernier, 17 août, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'était le pèlerinage diocésain qui s'est rassemblé pour la messe à l'église Sainte-Bernadette. Nous vous proposons maintenant d'en réécouter les moments forts, en commençant par le mot d'accueil de Monseigneur Bertrand Lacombe, l'archevêque d'Auch.
Bienvenue à Lourdes, chers pèlerins hospitaliers. Alors nous avons un peu pour habitude de rester assis pendant la messe, comme sont assis les personnes qui sont en fauteuil. C'est notre manière de marquer notre proximité, notre solidarité. Voici maintenant 24 heures à peu près que nous sommes arrivés avec les hospitaliers, avec les pèlerins malades, handicapés, aînés, nombreux cette année, et heureux de retrouver les visages de vous qui êtes venus des 7 secteurs du Gers, des 3 pôles missionnaires de Porte de Gascogne, de Armagnac Rivière Basse, d'Auch Astarac. Vous avez fait un bon voyage avec une arrivée un peu difficile comme nous l'avons eu hier. C'est un peu le jeu de piste. Nous voyons que suivre le Christ est parfois difficile. Il peut apporter la division, il peut apporter des complications, mais nous sommes encouragés quand nous chantons, comme nous l'avons déjà fait au début de notre messe, quand nous recevons l'eau du baptême, comme nous l'avons vécu aux piscines, comme nous l'avons vécu ici, ce matin, dans cette église Sainte-Bernadette. Il nous apporte son feu. Alors accueillons le Seigneur ressuscité qui vient vers nous.
Voilà, c'était le mot d'accueil de Monseigneur Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch, au début de cette messe du pèlerinage diocésain. Nous allons maintenant écouter l'évangile du jour proclamé lors de la célébration.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà, et juste après cet évangile, nous entendons l'homélie de Monseigneur Lacombe.
Alors, chers amis, supportez la chaleur, marchez pour venir jusqu'à l'église Sainte-Bernadette, faire ce jeu de piste, tout ça pour entendre Jésus qui met de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est bien raisonnable d'entendre l'évangile de ce dimanche ? Il n'est pas facile de l'entendre. Pourquoi Jésus est-il venu ? Nous préférons entendre des paroles où il est question du prince de la paix qui vient d'être à Bethléem, où nous entendons Jésus qui nous dit « La paix soit avec vous » après la résurrection. Mais il nous faut entendre aussi l'évangile et les textes de ce dimanche. Bon, il est question de baptême. Jean-Baptiste est venu baptiser dans l'eau. Et quand on est à Lourdes, on sait ce que c'est l'eau. Et ce geste que nous avons fait ce matin dans cette église ou que vous avez fait près de la grotte ou aux piscines a beaucoup de sens, surtout quand il fait chaud. Le feu ou la lumière ont aussi beaucoup de sens avec ces cierges qui sont au brûloir, ces cierges que nous tiendrons dans nos mains lors de la procession mariale, la retraite au flambeau. Oui, le Seigneur vient nous donner son eau et son feu, mais cette eau, nous le savons, ce n'est pas de l'eau toute simple ou une simple flamme, c'est l'eau qui nous plonge dans la mort de Jésus pour en ressusciter. Ce feu, c'est celui de l'Esprit Saint, celui qu'avait annoncé Jean-Baptiste. Je vous baptise dans l'eau, mais vient celui qui vous baptisera dans le feu de l'Esprit-Saint. Et pourquoi cela ? Pour que nous puissions vivre cette conversion intérieure, pour que nous puissions accepter ce changement, pour que nous puissions avoir un cœur nouveau. Et d'une certaine manière, déjà par notre présence ici, nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Pour comprendre un peu ces textes, il y a une parole qui m'a marqué dans le geste de l'eau que nous avons fait ce matin dans le chant « Je viens boire à la source ». « Je viens boire à la source de la vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. » Et alors, bon, comme je ne chante pas très bien, je ne vous chanterai pas le couplet, mais c'est dans un couplet que ça m'a marqué. « Il te demande à boire, mais il est étranger, et c'est dur de croire et de se rencontrer. C'est dur de croire et de se rencontrer. » Oui, le feu dont parle Jésus, la division dont il parle, ce n'est pas le fait qu'il vient mettre la guerre entre des pays, ou ce n'est pas le fait qu'il vient mettre la guerre civile. Il n'est pas question du tout de ça, mais il est question de ce qui se passe dans notre cœur et de ce qui se passe autour de nous. Et nous nous en rendons compte, parfois c'est dur de croire. Parfois c'est difficile de se rencontrer. Et même au sein de notre propre famille, il peut y avoir des moments un peu difficiles. J'ai échangé hier avec l'une d'entre nous qui me disait que son mari, au début, n'était pas trop d'accord avec pour ce qu'elle vienne au pèlerinage. Et puis les choses se sont faites. Nous avons des témoignages aussi de personnes qui voudraient bien que leur femme, leur mari, leurs parents, leurs enfants soient davantage engagés dans la foi. Et puis, il en est autrement en tout cas dans la manifestation de la foi. parce que souvent ses parents, ses enfants, ses époux, ses épouses sont des catholiques pratiquants, c'est-à-dire qu'ils pratiquent l'amour du frère. Ils s'engagent, ils s'impliquent. Donc voyez, les textes de la liturgie de ce jour, à travers le salut qui est donné, à travers la grâce. Vous avez entendu cette très belle parole de Jérémie que nous a lu Joris tout à l'heure. Une parole assez logique. Fais remonter Jérémie de la citerne. Oui, c'est cela qui nous est demandé. Aider nos frères à remonter. Nous l'avons entendu dans l'épître aux Hébreux que nous a lu Johanna. Courons avec endurance l'épreuve. Et oui, parfois c'est un peu une épreuve. Et puis, ce qu'on priait aussi à travers le psaume, Lucia et Alexandre, tu es mon secours, tu es mon libérateur. Alors, à la fois nous nous souvenons et peut-être que particulièrement nous présenterons au Seigneur par la Vierge Marie ces intentions que nous avons dans notre cœur, ces incompréhensions parfois, ces divisions, ces choses un peu difficiles que nous pouvons vivre avec nos proches. Mais nous nous rappelons aussi ce que nous dit le Seigneur à d'autres endroits. Celui qui quittera son père, sa mère, son frère, sa sœur retrouvera au centuple une maison, des frères, des sœurs. Et c'est ce que nous vivons tout au long de ce pèlerinage, et particulièrement au cours de cette journée diocésaine. Alors je crois que les textes de la liturgie de ce jour exigeant, nous rappelant l'eau, nous rappelant le feu, sont une manière de nous dire oui, nous sommes invités à suivre le Christ. C'est parfois dur de croire, c'est parfois difficile de se rencontrer, mais cela vaut la peine, parce que des personnes malades, parce que des personnes handicapées, parce que des aînés, parce que des frères et sœurs dans le Christ, parce que des enfants, des jeunes, des adultes, des grands-parents nous attendent, parce que nous sommes heureux de vivre cette fraternité. Et en rentrant chez nous, peut-être que plutôt que de nous rappeler ces divisions, plutôt que de nous rappeler ces dissensions, nous nous rappellerons la grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors nous serons retrouvés dans les relations que nous avons avec nos proches, avec ceux qui sont autour de nous, voir la grâce qui est à l'œuvre, voir la fraternité, voir le Seigneur qui nous encourage à la vie communautaire, voir le Seigneur qui nous encourage dans ses choix impliquants, comme l'a fait Sainte Bernadette lorsqu'elle a entendu Marie lui parler, comme elle a entendu Marie qui était devant elle disant tout l'amour de Dieu, lorsqu'elle a entendu Marie lui dire « Je ne te promets pas de te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde, mais ça veut dire que il y a ces moments impliquants, ces moments engageants que nous vivons pour que vraiment nous vivions notre foi. Et je crois que d'entendre ces textes aujourd'hui, c'est vraiment l'encouragement avec Marie à devenir plus encore pèlerin d'espérance, de vivre de cette espérance, de vivre de cette grâce que le Seigneur nous donne. Alors je termine sur une belle image. Peut-être que ceux qui vivent de la spiritualité des icônes, il y en a deux qui ont été offertes hier. Il y en a une qui compte beaucoup, qui s'appelle la Déisis. Qui s'appelle la Déisis, et qu'est-ce qui est représenté sur ces Déisis de la tradition orthodoxe? Il est représenté Jésus entouré de qui? Est-ce que vous avez une idée? Qui c'est qui peut entourer Jésus? Voilà, Marie et Saint Jean Baptiste. Dans la Déisis, c'est Jésus entouré de Marie et de Saint Jean Baptiste. Donc vous voyez, quand nous avons ces choix impliquants à faire, quand nous courons l'épreuve, quand nous avons du mal à voir le Seigneur qui vient nous faire remonter du fond de la citerne, rappelons-nous Jésus qui est entouré de la Vierge Marie que nous honorons particulièrement à Lourdes et pendant toute notre vie, et Jean-Baptiste qui nous annonce ce baptême dans l'eau et, de l'Esprit, et dans l'Esprit Saint, pour que nous puissions chaque jour être en sortie sur des terres d'espérance, car le Seigneur nous appelle. Amen.
Vous venez d'entendre l'homélie de Mgr Bertrand Lacombe, l'archevêque d'Auch, donnée à l'église Sainte Bernadette au cœur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Pour conclure ces extraits, écoutons maintenant son mot de fin de messe.
Un grand merci pour cette magnifique messe que nous venons de partager, et plus particulièrement à l'équipe des enfants et des jeunes qui, par vos paroles, vos chants, vos gestes, et c'est pas tout à fait terminé, nous avez permis de bien prier. Un grand merci à vous, nous pouvons vous applaudir. Et au cours de cette messe, nous étions en communion aussi avec tout le diocèse, puisque Radio Présence Lourdes a enregistré la célébration et elle sera diffusée sur notre radio. Et donc, une manière de dire à tous nos diocésains que nous étions en communion. Mais merci aux pèlerins d'un jour d'être venus, pèlerins d'un jour laïcs, pèlerins d'un jour religieux, religieuses, pèlerins d'un jour prêtres et diacres qui nous avaient rejoints. C'était vraiment une grande joie de célébrer ensemble.
Voilà, c'était les moments forts de la messe du pèlerinage du diocèse d'Auch, célébrée dimanche dernier, 17 août, et diffusée en direct sur Radio Présence depuis l'église Sainte Bernadette à Lourdes. Un grand merci à toutes celles qui ont pu permettre cette retransmission.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
On parle souvent des aides aux sans-abri pendant l'hiver, lorsqu'il fait très froid, mais après les journées de canicule que nous avons vécues ces derniers jours, eh bien, il est aussi temps de s'occuper de ce qui se passe pendant l'été. Pauline Cazier est allée en immersion, passer la journée, la matinée de dimanche dernier, pendant la canicule, avec deux bénévoles de la Croix-Rouge. Nous écoutons le témoignage de Jérôme et Béatrice qui nous parlent des maraudes destinées aux sans-abri.
Alors Jérôme, bonjour, tu es responsable des maraudes à Auch.
Oui,
alors
bonjour.
On est aujourd'hui le dimanche 17 août et on termine, c'est le dernier jour de la période de canicule. Est-ce que tu peux expliquer cette période qui a duré une semaine?
Alors oui, bonjour, alors moi c'est Jérôme, je suis responsable à la Croix-Rouge des maraudes. Alors depuis le 8 août, nous sortons deux fois par jour, aux heures les plus chaudes, entre 10h et midi et 18h30 et 19h30, 20h, pour distribuer bouteilles d'eau fraîche et brumisateurs aux personnes vulnérables dans la ville d'Auch. Nous tournons, nous allons directement voir les gens aux endroits où ils se trouvent, au frais, et voilà, tout en continuant les maraudes que nous faisons le mardi et le vendredi soir, toute l'année.
Oui, qui vont reprendre à partir de demain. Alors, quelque chose d'important que les auditeurs de présence doivent savoir, c'est que c'est le préfet qui décide des arrêts que vous devez faire, de la circulation que vous devez faire.
Tout à fait, je dépends de la préfecture, donc tant la préfecture me déclenche le plan canicule, donc juste entre le plan orange et rouge, et voir comme actuellement le plan hors sec. Je sors, donc c'est la préfecture qui décide des arrêts de distribution de nourriture. C'est vu avec eux et nous ensemble pour avoir la meilleure logistique possible pour apporter notre aide aux plus démunis.
Alors cette semaine, on a eu des températures très élevées, hein, jusqu'à 42. Est-ce que tu peux tirer un bilan du nombre de bénéficiaires? Comment ça s'est passé?
Ben, aujourd'hui, là, on va dire à 2 jours de la fin du plan canicule, on a à peu près fait 260 contacts réalisés dans la ville d'Auch. Nous avons distribué 220 brumisateurs et 330 bouteilles d'eau fraîche.
Les personnes que vous allez, parce qu'il y a Béatrice qui était là ce matin, que vous rencontrez, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps dans la rue?
Oui, quand même, oui, c'est des bénéficiaires qu'on connaît, qu'on aide depuis quelques années, voire pour certains beaucoup d'années. Après, c'est l'été, il y a beaucoup de gens qui sont de passage, qui font juste une halte, qui restent un mois ou deux à Auch. Et voilà, mais bon, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à la Maraude. Il y a même des gens qui sont retraités qui viennent à la Maraude. Ce n'est pas que des gens qui sont sans abri, sans travail, au RSA. Il y a aussi des gens retraités qui viennent nous voir pour nous solliciter en fin de mois des denrées alimentaires.
Alors, on va parler du 115. Vous appelez le 115 pour voir combien de personnes peuvent accéder au local. Tu me parlais d'à peu près 18 lits.
Oui, tout à fait. Avant chaque départ en Maraude, on appelle le 115 pour savoir s'il reste des places de disponibles pour pouvoir diriger en cas où, sur la Maraude, si quelqu'un désire passer une nuit en hébergement d'urgence. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes d'hébergement d'urgence donc, et pas assez de places. Donc les gens téléphonent à partir de 9h30 le matin pour avoir une place. Donc c'est très compliqué d'avoir une place ici à la CHU d'Auch. Manque de places, de lits, énormément, quoi.
Alors la journée, enfin la matinée d'aujourd'hui, ça a été une petite maraude, c'est toi qui le dis.
Oui, tout à fait, oui, on a fait à peu près 13 bénéficiaires. C'est une petite maraude, en sachant qu'on est à la fin du plan canicule, qui faisait à peu près frais ce matin comparé aux autres matinées qu'on a pu avoir. Et ce soir, je pense que la maraude de ce soir, cet après-midi, va faire encore chaud. Donc je pense que ce soir, ils vont faire une bonne vingtaine de personnes encore dehors pour la maraude du dimanche soir.
Vous êtes combien de maraudeurs, hein?
On est une petite trentaine de maraudeurs à tourner. On fait à peu près 8 à 9 maraudes par mois, du mardi au vendredi, même les jours fériés. Et nous sommes ouverts à... Nous recherchons vraiment beaucoup de bénévoles. Nous recrutons dans la vestiboutique, l'aide alimentaire, la distribution alimentaire et bien sûr les maraudes aussi. Nous recherchons activement de nouveaux bénévoles pour renforcer nos équipes.
D'accord. Alors je vais passer la parole à Béatrice. Béatrice... tu es bénévole aussi ce matin?
À la boutique. Voilà, je suis occasionnellement chauffeur, voilà, avec Jérôme. Nous recherchons des bénévoles.
Toujours bénévoles. Oui, c'est important. Oui, la vestiboutique, est-ce que tu pourrais dire à quel endroit elle se trouve?
Alors, c'est rue du docteur Samanès. Mmh. Et voilà, on est ouvert le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi matin. Mmh. Et nous allons déménager d'ailleurs ici bientôt pour ouvrir une boutique plus importante.
Donc vous recherchez des bénévoles pour la vestiboutique et aussi donc pour les maraudes.
Tout à fait, oui. Après, on peut être bénévole à plusieurs endroits. Hein. Voilà, moi il avait besoin, je suis venue. C'est après suivant nos disponibilités et puis voilà, on s'investit. Voilà, il faut vouloir s'investir, c'est important.
Donc ce plan canicule est terminé. Là donc vous allez passer aux horaires normaux, les jours normaux, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, c'est ce que
tous
tu m'as
dit. Les mardis et les vendredis de 18h30 à 21h. Nous tournons pour donner des denrées alimentaires aux bénéficiaires sur 6 arrêts qui sont définis et ils nous attendent et ils nous remercient beaucoup. Ils sont très 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 gentils avec nous. Et beaucoup de reconnaissance. Et il y en a même quelques-uns qui participent à nos actions, qui sont devenus bénévoles à la maraude, qui font une maraude par mois. Je trouve que c'est un engagement qui est très très bien. C'est un peu du donnant-donnant. Ils voient un peu l'autre côté de la Croix-Rouge. Voilà.
Alors il y a l'aspect aussi donc, pratique avec la distribution d'eau et de brumisateurs, mais il y a aussi l'aspect parole aussi. Vous êtes là pour...
Oui, on n'est pas là que pour donner à manger aussi. On est là pour avoir un petit mot pour chacun. On les connaît, donc on connaît les situations. On prend le temps de discuter. On est le SAMU social. On n'est pas là que pour donner à manger. On est là pour ça, mais on est là aussi pour écouter, pour diriger si les bénéficiaires ont besoin. Nous sommes formés pour ça. Et voilà, on a une très très bonne équipe, une très très bonne ambiance. Et rejoignez-nous.
Voilà, à l'instant, on a écouté Jérôme et Béatrice, tous les deux, donc membres et bénévoles de la Croix-Rouge, pour parler effectivement de ces aides pendant cette canicule que nous venons de subir. Merci beaucoup à Pauline Cazier pour ce reportage.
Présence à Salis du Salat, 94.1.
Loquilla, amon.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh, pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh, pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, oh, le feu.
No puedo luchar contra el viento. Siento, quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. Du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu,
c'est un très beau audio à l'instant avec Kenji Girac et le chanteur Vianney avec ce titre, tout simplement, ça s'appelait Le Feu sur Présence.
Présence sur le plateau de Lannemezan.
On retourne l'actualité sur Présence avec Carla Ponce de l'école du journalisme de Blagnac que je salue. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. Dans le Gers, la sécheresse et les fortes chaleurs mettent à rude épreuve le monde agricole. Cultures brûlées, prairies grillées et rendements viticoles en chute libre s'accumulent depuis juin. Les maraîchers peinent à fournir légumes et tomates, tandis que les éleveurs voient leur fourrage s'épuiser. Les restrictions d'eau accentuent les difficultés, notamment pour les exploitations non irriguées. Face à ces conditions, certains agriculteurs doivent acheter du foin ou arroser en plein après-midi. L'été n'étant pas terminé, les pertes pourraient encore s'aggraver dans les semaines à venir. À Villeneuve-sur-Lot, la municipalité lance une campagne contre les frelons asiatiques. Depuis lundi, 4000 pièges sont distribués gratuitement aux habitants. Le dispositif, affixé sur une bouteille en plastique, attire les frelons sans nuire aux abeilles. Deux périodes de piégeage sont recommandées, au printemps pour capturer les rennes et à l'automne pour limiter la reproduction. Chaque foyer pourra retirer un piège à l'accueil de la mairie sur présentation d'un justificatif. Les médecins toulousains interviennent désormais à l'hôpital de Cahors grâce au réseau H2O. Cette convention regroupe plus de 50 centres hospitaliers d'Occitanie pour faciliter l'accès aux soins. Cardiologie, ORL et radiologie bénéficient d'un renfort de spécialistes et d'équipements mutualisés. Les équipes locales sont ainsi renforcées tout en formant les internes sur place. Trois disciplines prioritaires seront développées en 2026: la gynécologie, la pneumologie et l'hépatologie. L'objectif: rapprocher l'expertise médicale des habitants et renforcer l'hôpital de Cahors. À Cransac dans l'Aveyron, l'activité des thermes s'annonce en léger repli cette année. Après plus de 4000 curistes accueillis en 2024, la fréquentation pourrait reculer de 5%, autour de 3800 personnes. Une baisse comparable à celle observée dans d'autres établissements thermaux en France. Le centre met en avant l'incertitude économique, le coût des séjours et les rumeurs sur le déremboursement des cures. Malgré ce contexte, le taux de fidélisation reste élevé, dépassant les 60%. Le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées et le parc national des Pyrénées renforcent leur coopération. Une convention vient d'être signée pour formaliser leur action commune sur le territoire du parc. Elle prévoit des opérations de sensibilisation à l'environnement et au respect des réglementations. Les gendarmes et agents du parc mèneront aussi des missions conjointes de surveillance en zone cœur. Ils participeront ensemble aux recherches de personnes en montagne. Et enfin, Toulouse décroche la 6e place des villes françaises les plus attractives et instagrammables selon Faire Partie Magazine. La ville rose cumule plus de 1,7 million de publications avec le hashtag Toulouse sur Instagram et près de 687 000 vidéos sur TikTok. Le classement repose sur un indice d'attrait global combinant climat, patrimoine, gastronomie et rayonnement digital. Avec 48 restaurants primés et 136 sites à visiter, Toulouse récolte 48 points sur 70 possibles. Son climat ensoleillé, avec 292 jours de soleil par an, a également pesé dans la balance. Elle se place ainsi derrière Avignon, Perpignan, Paris, Bordeaux ou encore Marseille.
Merci beaucoup Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac qui passe l'été à notre compagnie. Et on remercie bien sûr tous ses étudiants. Le retour de l'actualité, ce sera à 13h, cette fois-ci avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Je ne sais pas si vous aimez Sherlock Holmes, mais c'est la deuxième partie consacrée à une association qui est du côté de Pau et qui s'appelle le Club Sherlock Holmes. C'est dans un jour, un livre, un auteur.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes. 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
La semaine passée, nous étions avec François Pardaillan pour parler d'un détective célèbre, Sherlock Holmes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on en parlait la semaine passée, il y a environ 500 associations qui, effectivement, rend hommage à Sherlock Holmes. On n'a pas tout dit la semaine dernière. Bonjour François Pardaillan.
Bonjour.
Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe. Bonjour François. Alors effectivement, la semaine dernière, on a parlé du club, on a parlé du fonctionnement du club, mais il nous est apparu hors antenne, avant que nous nous séparions, qu'on avait oublié de dire beaucoup de choses, parce que c'est vrai que nos auditeurs connaissent peut-être Sherlock Holmes de nom, ils ont peut-être vu des séries, etc. Mais il y a des éléments sur lesquels il faudrait peut-être que nous revenions. Qu'est-ce que vous en pensez, François ?
Je pense qu'avant tout, il faut parler du personnage, parce que le personnage est au centre de notre club. nous n'avons pas évoqué, mais il faut savoir que ce personnage a marqué l'histoire du roman policier, et de telle façon que, ensuite, après Sherlock Holmes, des tas d'auteurs s'en sont inspirés avec plus ou moins sa méthode, avec plus ou moins son style d'approche d'une enquête, d'un crime, etc. Et donc, ce personnage a une histoire en lui-même, et c'est un personnage qui aujourd'hui encore, est exploité, on va dire, dans le cinéma, dans la littérature,
dans les séries
télé, les BD, même dans les jeux...
Exact.
Les jeux informatiques, etc. Mmh. C'est une mine, voire même pour la publicité. Souvent, on a vu les compagnies d'assurance avec le logo de Sherlock Holmes et la loupe. Ça symbolise de suite le personnage.
Alors, vous nous disiez, hors antenne, c'est pour ça, effectivement, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une deuxième émission, puis qu'on vous réinvite cette Merci. Semaine dans Un jour, un livre, un auteur. La première association qui s'est montée donc, aux États-Unis sur Sherlock Holmes a quand même vu des personnages célèbres y adhérer. Le président américain Franklin D. Roosevelt
oui.
et le premier ministre donc, britannique qui a symbolisé la résistance donc, anglaise durant la Seconde Guerre mondiale, un certain Winston Churchill.
Tout à fait.
Il connaissait, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, il connaissait Arthur Conan Doyle, qui est celui qui a commis en fait, ce personnage.
Oui, il connaissait bien, ils étaient amis d'ailleurs, ils échangeaient. Alors bon, c'était plus facile pour Conan Doyle, puisqu'il était anglais, de contacter Churchill, mais Roosevelt aussi, il échangeait. Conan Doyle a participé à beaucoup de conférences aux États-Unis. Et son personnage a été très célèbre. D'ailleurs, si on refait l'histoire des aventures de Sherlock Holmes, il faut savoir que le premier succès qu'a eu Conan Doyle avec son personnage Sherlock Holmes, ça a été aux États-Unis. Son premier roman qui va sortir, Études en rouge, ne marque pas beaucoup le public anglais. Par contre, aux États-Unis, il a déjà un certain succès. Ensuite,
comment on explique ça ? Comment on explique que cet homme qui est anglais, alors je sais que nul n'est prophète en son pays, arrive à mieux démarrer aux États-Unis qu'en Angleterre?
Alors, ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Parce que autour, il a été fait une campagne de promotion de ce livre que n'ont pas su faire les Anglais. C'est peut-être d'ailleurs la vraie raison. Et en Angleterre, il n'était pas préparé. Il connaissait bien sûr des Dickens, etc. Mais il n'était pas préparé pour faire vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui de la publicité parmi les médias et tout ça pour faire connaître. Il faut rappeler qu'à l'époque victorienne, il n'y avait pas de radio, il n'y avait que les journaux. Et les journaux étaient aussi assez limités, on va dire, dans la publication de romans et tout. Donc, ce qui a fait vraiment le succès après de Sherlock Holmes en Angleterre, d'abord, dans les îles britanniques et d'une manière générale, ensuite après en Europe et à travers le monde, ça a été la création du Strand Magazine. C'était un magazine un peu people, qui allait parler, par exemple, des personnalités, des personnages en vue, etc., un petit peu de mode, et dedans, il y avait des feuilletons. Et donc, Conan Doyle a signé d'entrer sur ce magazine, qui sortait tous les mois, et au lieu de faire des romans, qui étaient extrêmement longs, donc qui n'avaient pas eu de succès, puisqu'il en avait déjà sorti deux, il a commencé à écrire des nouvelles, donc beaucoup plus courtes, qui se lisaient, on va dire... une cinquantaine de pages, mais réduit dans le format magazine à 20-25 pages, ça passait très bien. Et sa première aventure, quand il a sorti dans le Strand Magazine, a eu un succès foudroyant, parce que là, c'était un magazine qui coûtait rien du tout, qui était vendu partout dans le pays, et à partir de là, les gens ont découvert le personnage. Mais avant, les romans, c'était plutôt pour des gens déjà avec un certain niveau de culture et tout, alors que le Strand Magazine, c'était un peu comme aujourd'hui nos magazines, je ne vais pas en citer, mais qui parlent un peu de tout, une recette de cuisine, la dernière robe, voilà.
Gassi, et voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'un personnage comme vous est décidé à un moment donné de s'intéresser effectivement et de monter cette association dont on rappelle l'existence qui est sur Pau, qui est une association donc qui rend hommage effectivement donc à Conan Doyle et puis à son personnage. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous ayez été amené à vouloir créer cette association et puis à essayer avec vous de rassembler des personnes pour que le lien social de cette association soit effectivement ce personnage, ce détective privé qui est anglais, qui n'a rien à voir avec les codes français. Comment vous en êtes arrivé là ?
Alors moi, très jeune, à l'âge de 11 ans, je suis tombé sur mon premier Sherlock Holmes, tout à fait par hasard. Le chien des Baskerville, c'est un des romans les plus connus, bien sûr, qu'on lit souvent dans les lycées en 6e ou en 5e. Moi, je suis tombé tout à fait par hasard et j'ai été de suite interpellé par un personnage qui, comme un magicien, je vais dire, voit les choses, les gens, les objets et va déduire par rapport à des indices infimes. Va retracer en fait qui est le propriétaire d'une canne, quelle est la profession de telle personne à partir d'un chapeau. En voyant un individu, il va de suite par rapport à quelques indices que l'on va retrouver sur le visage, sur les mains et tout ça, sa profession. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et ensuite, toujours dans le même roman, il y avait la construction aussi de l'intrigue qui était bien bâti, l'auteur, avec sa méthode très personnelle, a arrivé à résumer d'une façon assez concise l'époque, l'environnement, et à la fois la structure de l'enquête du détective. Et j'ai trouvé ça remarquable, et ça m'a tellement interpellé que j'ai voulu, en savoir plus. Donc ça, c'est pour la découverte. Et ensuite, après, j'ai vécu jusqu'à 40 ans, donc 11 ans, 40 ans, vous voyez un peu. Et à part que je savais, pour avoir lu une biographie d'Arthur Conan Doyle, qu'il avait existé des clubs, ou qu'il en existait aux États-Unis et à Londres, je ne pouvais échanger avec personne. Et je n'ai rencontré personne durant toute cette période pour partager le personnage.
Alors, vous venez de citer le nom de l'auteur de Sherlock Holmes, parce qu'on parle beaucoup de Sherlock Holmes, mais il y a un auteur derrière, il y a aussi un narrateur, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur Arthur Conan Doyle ? Il a quand même une particularité, et puis il y a aussi un personnage qu'il a connu, qui lui a servi un peu de modèle pour construire ce personnage de Sherlock Holmes. Je vous laisse la parole.
Alors, Arthur Conan Doyle, d'abord, a fait ses études à Édimbourg, mais avant... il a commencé chez les jésuites et tout ça. Alors il est de nationalité, on va dire, au départ il est né à Édimbourg, donc écossais, et il a donc dans son éducation il a appris le français, et il était passionné surtout de littérature et d'écriture. Donc il a lu les auteurs français, il a lu les auteurs anglais, tout ça de l'époque, etc. Et donc il va au fur et à mesure, donc, obtenir son diplôme de médecin à la faculté de médecine d'Édimbourg, et il va monter son cabinet. Mais comme il est toujours passionné, il a déjà écrit des petites nouvelles, des petites choses, mais vraiment sans les faire éditer ni rien, c'est pour son plaisir et tout. Et quand il va monter son premier cabinet de médecine, malheureusement, il a très peu de clients. Et donc, il se met à écrire et il écrit donc les premières nouvelles de Sherlock Holmes. Pourquoi Sherlock Holmes ? Parce que ce personnage a été inspiré un peu. Il avait un professeur de médecine qui s'appelait Joseph Bell. Et quand ce professeur-là faisait des démonstrations pour ses étudiants, quand il voyait arriver un patient et tout ça, il arrivait déjà à définir un peu ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à
sa classe sociale, ce qu'il fait comme travail,
le mal qui le touchait souvent, mais aussi parfois sa profession et tout ça. Il émettait plein de d'hypothèses et qui souvent s'avérait juste. Voilà. Ensuite, après, comme je l'ai dit, Conan Doyle aussi a lu la littérature française. À cette époque, déjà, de Conan Doyle, il y a d'abord un auteur américain qui est Edgar Allan Poe, qui écrit trois nouvelles du Chevalier du Pain, et qui sont remarquables. C'est un personnage aussi qui vit dans son appartement, qui a un faire-valoir, un peu comme le docteur Watson, qui est le faire-valoir de Sherlock Holmes. Et il va tomber par hasard sur un crime qui se passe, et puis intellectuellement il va commencer à essayer de le résoudre et tout ça, et c'est les trois premières aventures aussi qui vont marquer Conan Doyle en tant que le personnage du Chevalier du Pain, le raisonnement, l'observation, la déduction et tout ça. Et ensuite, après, il y a un auteur français qui s'appelle Émile Gaboriau, qui a été aussi, qui a écrit énormément de romans policiers, et notamment le fameux Monsieur Lecoq, qui aussi prend du temps, mais va observer, etc., etc. Et d'ailleurs, Conan Doyle le dira ensuite, qu'il s'est inspiré un petit peu de tous ces personnages, son professeur, les deux auteurs et tout ça. Mais pas que. Mais nous, nous sommes remontés après dans les clubs sur un peu l'histoire du roman policier. Il y avait eu d'autres auteurs aussi qui ont marqué un petit peu cette littérature policière et qui ont certainement pu influencer Conan Doyle. Il n'empêche que quand il crée le personnage de Sherlock Holmes, bah comme tous les gens, que ce soit les peintres, les auteurs, etc., on s'inspire toujours de ceux qui sont passés avant nous, eh bien, lui crée un personnage qui est un peu un amalgame des précédents, mais en lui donnant aussi le caractère qu'a voulu Conan Doyle, c'est-à-dire un personnage qui, à la fois, va réunir l'analyse, l'observation, la déduction, mais aussi les sciences à l'époque, au niveau où elles étaient à cette époque-là, avec des méthodes très particulières. Et en même temps, l'efficacité aussi, quand il va essayer de résoudre ses problèmes, il ne les résout pas que dans son salon, il va se déguiser, il a aussi des compétences en tant qu'acteur, donc il sait se grimer, etc., pour passer dans... Il va s'appuyer aussi sur des petits bonhommes, des petits garçons qui traînent dans les rues, et il va s'en servir d'informateur, oui, etc. Quoi. Donc il a des méthodes à lui, et c'est un peu ce qu'a fait Conan Doyle, c'est de créer un personnage qui n'existait pas à ce niveau-là déjà dans la littérature policière.
D'accord. La semaine dernière, vous avez parlé de canon. Alors, j'aimerais bien que vous développiez cette histoire de canon de Sherlock Holmes. Par rapport à quoi est-ce un canon et comment il est défini, ce canon ?
Alors, le canon regroupe, on va dire, les 60 aventures écrites par Arthur Conan Doyle. Dedans, il y a 4 romans. J'ai cité Le Chien de Baskerville, j'ai cité Étude en rouge, il y avait Le Signe des Quatre, La Vallée de la Peur. Il y a eu 4 romans. Mais après, et justement quand je parlais du Strand Magazine, Arthur Conan Doyle a écrit 56 nouvelles. Donc, des nouvelles où on retrouve le personnage, donc à différents niveaux, toujours avec son faire-valoir le docteur Watson, mais aussi des personnages, quelques personnages récurrents. Voilà. Et donc, cet ensemble-là s'appelle le canon. Et pourtant, ensuite, à la mort d'Arthur Conan Doyle, son fils Adrian, avec son biographe John Dixon Carr, ont écrit encore 12 aventures inspirées des écrits qu'ils ont trouvés inachevés de Conan Doyle. On ne les intègre pas dans le canon, bien que ce soit des ouvrages, enfin des aventures qui tiennent vraiment la route, on va dire. Mais ce n'est pas le canon, c'est les 60 aventures.
D'accord. Et ce canon, il a une particularité, c'est qu'à un moment donné, il y a la mort du personnage et sa résurrection. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ?
Alors, Arthur Conan Doyle, lui, son projet littéraire, c'était d'écrire des romans historiques, donc d'être un peu Dickens, être reconnu pour ça. Quand il écrit Sherlock Holmes, c'est de l'alimentaire, en fait. C'est parce qu'il a besoin d'argent pour vivre, et donc il écrit des aventures de Sherlock Holmes. Et quand, à partir du Strand Magazine, les nouvelles sont sorties, ça a eu un tel succès que ça a fait pratiquement le tour du monde. À partir de là, il a gagné un argent fou. Alors qu'au début, son premier roman, Étude en rouge, quand il a proposé à un éditeur, il l'a proposé pour quelques livres ou quelques shillings, enfin bon, vraiment une somme dérisoire. Mais ensuite, après, on lui a proposé un pont d'or, parce que tout le monde attendait la sortie, parce que c'était quand même actuel, on était en temps réel. Donc, oui. Il écrivait les Sherlock Holmes, ça sortait dans le Strand Magazine quelques mois après.
Oui. Ce qui était une pratique aussi de l'époque de la fin du 19e siècle, où les romans qui paraissaient sous la forme de feuilletons dans les journaux étaient souvent des romans contemporains.
Exactement. Alors, Conan Doyle, en même temps qu'il écrit des Sherlock Holmes pour après faire sa fortune, il écrit de très bons romans historiques, des romans, des contes aussi. Donc il a écrit des romans sur la guerre de Cent Ans, comme la Compagnie Blanche, Sir Nigel. Il a écrit des romans sur l'époque napoléonienne avec le brigadier Gérard. Il a écrit des romans un peu fantastiques avec le professeur Challenger, enfin voilà. Et donc, il s'aperçoit que partout où il va, en fait, ses romans, même s'ils ont un petit succès, n'ont pas un grand succès, parce que chaque fois qu'il est invité dans un endroit pour parler de littérature, on lui parle de Sherlock Holmes. Alors, au bout d'un moment, il dit, d'ailleurs il le dit dans ses mémoires, il dit « soit je le tuerai, soit c'est lui qui me tuera ». Et sa femme, donc ayant la tuberculose, Conan Doyle connaît bien la Suisse, et il l'amène en Suisse, à Davos, pour se soigner, etc. Et en se baladant, un jour, il passe à côté de Meiringen, où il y a les chutes de Rachenberg. Et là, il se dit « tiens, si un jour je dois tuer un personnage, ça serait pas mal là, de le balancer là ». Donc, à un moment, il se dit « j'en ai marre, je vais le zigouiller ». Et comme ça, je serai tranquille, je serai enfin débarrassé de ce personnage et je vais pouvoir être reconnu pour mes ouvrages historiques. Et donc, il crée, dans la dernière aventure de ce cycle, on est à peu près à 25 aventures de Sherlock Holmes, il crée le professeur Moriarty, qui est le Napoléon du crime, le génie du mal, et qui dirige toute la pègre londonienne, mais pas que, etc. On n'en avait jamais entendu parler avant. Donc, Sherlock Holmes, lui, est au courant, il essaie de le piéger. Malheureusement, pour le piéger, il faut qu'il quitte l'Angleterre pendant un moment, le temps que la police, parce qu'il a donné toutes les informations, arrête le professeur Moriarty. Il s'en va en Suisse avec Watson. Malheureusement, le professeur Moriarty l'a suivi discrètement. Et il se retrouve par un concours de circonstances un peu voulu, en haut des chutes de Reichenbach. Et là, les deux s'affrontent, les deux hommes, le génie du bien et du mal, s'affrontent et ils tombent dans les chutes. Et donc, ils disparaissent. Et là, ça y est, Conan Doyle est content. Il n'y a plus de personnages. Alors là, c'est scandale et scandale en Angleterre, à Londres, partout. À la City, les gens portent le brassard noir. La mère de Conan Doyle se fâche avec lui, lui redemande de faire vivre le personnage, qu'il n'avait pas le droit de le tuer, etc. Enfin, c'est un scandale. Conan Doyle arrive à tenir 10 ans comme ça. Alors, 10 ans, il n'écrit plus de Sherlock Holmes. D'accord. Pendant ce temps, il sort quand même Le Chien des Baskerville, mais qui est post-mortem, c'est-à-dire...
Ça se passe
avant qu'il disparaisse, voilà. Ça, c'était pour contenter, parce qu'il avait besoin quand même d'alimenter la caisse, et donc il lui fallait un peu d'argent, donc il sort Le Chien des Baskerville, gros succès, mais le personnage, c'est fini, il est mort. Et donc, au bout de 10 ans, on le sollicite, on lui propose tellement d'argent, etc., Conan Doyle... s'intéresse un peu plus après au spiritisme et tout ça qui a à l'époque certaines formes spirituelles et donc va ressortir le personnage, mais le personnage dans sa chronologie ça sera qu'il aura disparu 3 ans et en fait il est tombé dans les chutes mais il n'est pas tombé au fond, il a réussi à s'accrocher, disparaître, faire un tour du monde, etc., qu'il va décrire à Watson quand il va revenir.
C'est ce qu'on appelle le grand hiatus, d'ailleurs.
On appelle ça le grand hiatus, tout à fait.
Philippe, vous vouliez poser une question.
Oui, comment vous voyez, je pensais en vous écoutant au personnage de la Panthère Rose, donc qui est un inspecteur célèbre.
L'inspecteur Clouseau, oui.
L'inspecteur Jacques Clouseau. Ouais. Mise en scène, les 8 films ont été réalisés par Blake Edwards, qui était américain. Mm-hmm. Alors à l'origine, c'est une comédie policière. Et on voit bien, il met en scène cet inspecteur qui n'arrive jamais à rien, quoi. Mais qui fait rire tellement de monde, au point que Blake Edwards déclarera, je crois c'est au 3e ou 4e film, il a dit « Donnez-moi 10 inspecteurs Clouseau et je vous mets le monde à feu et à sang ». Comment vous percevez ce personnage de Jacques Clouseau, qui est un inspecteur, qui est censé faire des enquêtes, mais qui n'arrive jamais à rien, tout en faisant rire tout le monde. Comment vous le percevez dans cette histoire, effectivement, des polars? Sachant que, je le précise juste, lorsque le premier film sort, sur la musique, donc du thème musical de Henri Mancini, le public applaudit le premier film de La Panthère Rose, pendant plusieurs minutes à l'issue de la première. Comment vous le situez, ce personnage, par rapport à celui de Conan Doyle, qui est très sérieux?
Alors moi, je trouve que c'est génial. L'auteur a donné une autre forme de l'inspecteur, du détective, si vous voulez, avec...
Alors qui est français, lui, par contre.
La personne qui va ricocher partout. En fait, il n'a pas de méthode. Mais sa méthode, en fait, c'est le fait qu'il n'ait pas de méthode. Si on prend un parallèle, vous regardez Colombo, par exemple. Oui. Colombo, l'inspecteur Colombo, quand il enquête, en fait, c'est du billard. On a l'impression. Mais c'est pas vrai. Et là, l'auteur a donné à son inspecteur, justement, au lieu que ce soit quelqu'un vraiment d'affirmé, qui va utiliser les méthodes classiques et tout, il va travailler par ricochet, en fait, avec une espèce de pagaille dont on ne comprend pas, jusqu'à la fin où il s'en sort. Alors on a l'impression que c'est une chance, que c'est de la chance, mais non, c'est le génie de l'auteur qui a su communiquer à son personnage une façon de faire pour arriver au résultat. Et à la fin, qu'on prenne Sherlock Holmes ou la Panthère Rose, ils arrivent au résultat.
Oui,
c'est des cheminements différents.
Des cheminements différents.
Il y a un respect énorme pour ces gens qui écrivent.
Et puis une volonté d'un côté d'être très sérieux, d'entraîner les gens sur du polar tout, et de l'autre, mais c'est bon, moi je vais vous avouer, La Panthère Rose est certainement un des films, sinon le film, enfin les films, les 8 films qui m'ont fait le plus rire, sachant qu'au départ ils prévoient d'en faire qu'un. Et puis exactement comme là, le succès est tel, un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième,
et puis un sixième, et puis un huitième. Son anti-policier, en fait, qui réussit.
La Panthère Rose, c'est un anti-Sherlock Holmes.
Ah, tout à fait.
C'est anti dans le sens de celui qui est totalement opposé.
Oui.
Il n'a pas de méthode, ou du moins on ne la comprend pas. Il n'est pas rigoureux et il n'obtient pas les résultats qui se suivent et qui sont rigoureux. Mais à la fin, on arrive à résoudre. Et donc, on est sur les antithèses au sens propre du terme.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est super.
Ah, mais c'est hautement.
Et c'est un gros travail d'écriture.
Au contraire, c'est ça.
Ah, oui. C'est pour ça que je posais la question. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que
moi, je trouve
c'est un personnage complètement loufoque. Alors, qui plus est, les Anglais, on sent bien qu'il y a eu cette volonté de se moquer des Français. Mais comme les Français, on l'a fait aussi avec les Anglais.
Bien sûr.
De bonne guerre, tout ça. Mais c'est vraiment un personnage absolument extraordinaire.
Ben oui, tout à fait.
Et puis il y a des gens pour lui donner la réplique qui sont fabuleux.
Le génie de l'auteur, c'est que au lieu de prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'auteurs après qui se sont inspirés, ou même de personnages policiers, donc de détectives et tout ça. Si on prend Maigret, je parlais de Colombo, il y en a eu des tas après, Hercule Poirot et tout ça, qui vont reprendre un peu toujours le schéma du détective à des formes différentes. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que le but, à la fin, comme je dis toujours, l'objectif, c'est de trouver la vérité, mais par un concours, ce qui apparaît comme un concours de circonstances. Et c'est là, il n'a pas pris le chemin classique, il a pris son chemin à lui, et qu'il a créé. Et c'est ça qui donne du génie.
C'est ce qu'on retrouve aussi parfois dans les aventures, du commissaire Adamsberg, de, comment elle s'appelle, Frédéric?
Oui, de Fred Vargas.
Fred Vargas,
bien sûr.
Oui, où effectivement, ce commissaire, il est totalement aux côtés des clous, il fonctionne à la totalité de l'instinct, il est entouré d'un certain nombre de collègues qui sont tous plus fous les uns que les autres, et néanmoins, à l'issue de l'enquête, ils résolvent l'enquête. Fou qu'il puisse être, il résolve l'enquête d'une façon magistrale.
Pour la petite histoire, pour avoir rencontré Fred Vargas et avoir discuté Sherlock avec elle, elle a une culture incroyable.
Ah oui,
c'est... Et notamment de Sherlock Holmes.
Ouais, ouais.
Bon, eh bien, on discutera avec vous pendant des heures et des heures, François Pardéian.
Mais là, on nous fait signe qu'il faut couper.
On nous fait signe, effectivement, qu'il faut couper. Alors, on rappelle, François Pardéian, vous êtes président d'un club, donc effectivement, qui rend hommage au personnage de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Vous avez également créé une maison d'édition, Le Patient Résident, aussi, qui met en exergue un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui écrivent sur le polar. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et écoutez, on va se dire à la semaine prochaine.
En espérant que vous allez vous précipiter sur les aventures de Sherlock Holmes. Parce que ça fait vraiment de
Pourquoi
très
pas
belles lectures.
Sherlock Holmes à Lourdes, à Tarbes, à Bagnères, pourquoi pas?
Ah oui.
Ça, ça peut s'envisager.
Mais je pense aussi que je vais revoir les films La Panthère Rose, ouais, parce que ça me donnait bien envie de ce que vous voyez.
Un peu de Sherlock Holmes aussi.
Ah, oui, un peu de Sherlock Holmes aussi. Ah, ouais. C'est vrai que, notamment avec ce personnage extraordinaire, hein, qui était, enfin, cet acteur extraordinaire qui était Peter Sellers, mm-hmm. voilà, qui incarne 6 des 8 films, hein, quand même. Ouais. Voilà.
Ah, bon. Eh ben, merci.
Et la semaine
merci
prochaine. Beaucoup d'être revenu nous voir, merci François Pardet. Hein. Et puis, on vous dit à bientôt, parce que je pense que vous aurez d'autres choses à nous raconter dans les mois et les années à venir.
Pourquoi pas.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Okay. Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nonni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape appelle à une journée de jeûne et de prière pour la paix. Elle aura lieu vendredi, jour où l'Église célèbre la bienheureuse